Qu'on se le dise, une partie du monde s'est appropriée l'humanité pour imposer ses modes de pensée et de vie au détriment de celles des autres. Ces autres, majoritaires et de moins en moins silencieux, qui ne veulent plus être otages du grand casino cynique et sans avenir de la finance, s'engagent dans des formes de résistance aussi riches et différentes que sont les femmes et les hommes qui les animent. Une de ces nombreuses luttes est portée par les zadistes, ZAD, Z-A-D, à l'origine, zone d'aménagement différé, rebaptisée zone à défendre contre un projet visiblement inutile, coûteux et nuisible pour notre environnement. Pour nous éclairer sur l'histoire de la plus vieille lutte française, Martine, Isabelle, Edith et Céline, toutes quatre membres du comité Notre-Dame-des-Landes 41, étaient présentes sur le plateau du Studio Zef la semaine dernière, le jour même où le rapporteur public de la Cour administrative d'appel de Nantes indiquait qu'elle demanderait l'annulation de deux ou trois arrêtés préfectoraux autorisant le projet d'aéroport. En 1970, les habitants de Notre-Dame-des-Landes prennent connaissance du projet. 1972, création de l'ADECA, association de défense des exploitants concernés par le projet d'aéroport. Le projet s'essouffle, avec quelques sursauts en 1994. 2000, sous le gouvernement Jospin, le projet ressort autour de la loi Voinet, ministre écologiste. Sur la perspective de la saturation des aéroports parisiens, le site Notre-Dame-des-Landes est évoqué. Monsieur Jean-Marc Ayrault, alors maire de Nantes, pousse fortement dans ce sens. 2002-2007, débat public, validation du projet en 2003, enquête publique. 2010, l'État signe avec Vinci un contrat de construction et de concession du futur aéroport pour 55 ans. Les travaux doivent commencer en 2014 pour une ouverture en 2017. Pendant ce temps-là, l'opposition s'organise. En 2000, l'ADECA est réactivée, s'ensuit d'autres créations d'associations citoyennes. Et l'opposition s'organise également dans le Loir-et-Cher avec le comité blésois Notre-Dame-des-Landes, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Studio Zef. Comité représenté aujourd'hui par quatre de ses membres, Martine, Isabelle, Edith et Céline. Bonjour mesdames.
Bonjour. Bonjour.
Ça va, vous allez bien?
Oui.
Bon, très bien. Vous n'êtes jamais venu à Studio Zef?
Première fois
pour tout le monde. Bon, ça va bien se passer, vous allez voir. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas bien l'histoire du projet, j'ai fait un aperçu très succinct. D'abord, est-ce que les informations sont justes? Est-ce que ça a bien commencé en 1970? Mais il me semble que c'est plus ancien que ça.
Alors, Martine, c'est plutôt dans les années 60. Et puis, un élément important, c'est qu'à l'origine, cet aéroport est construit pour le Concorde, qui à l'époque fonctionnait et qui depuis a disparu du paysage aérien. Mais par contre, le projet est toujours là.
Alors, cette histoire de projet, pourquoi il fallait désengorger les aéroports?
A priori, il fallait que le Concorde puisse s'envoler d'un aéroport extra-parisien. Donc, c'était prévu pour accueillir le Concorde sur cet aéroport-là. Très vite, les agriculteurs qui sont autour se réagissent, en fait. Isabelle.
Un petit peu plus tard, quand
un
même.
Un petit peu plus tard,
oui. Oui. Mais c'est autant pour par rapport à l'aspect un petit peu pharaonique. L'idée, c'était de pouvoir transporter des voitures à l'intérieur des avions pour qu'ensuite... Donc, c'était une vision du futur, en fin de compte, où effectivement, on embarquait sa voiture dans un avion. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On loue une voiture sur place. Et on ne s'embête pas avec les voitures. Et on va même plutôt vers le fait de ne plus avoir quelque part de voiture.
Ouais. Peut-être avant de recommencer peut-être à parler du projet dans son contexte, l'historique et l'action du comité Notre-Dame-des-Landes 41. Edith, tu peux nous
oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, dans l'histoire de l'opposition à Notre-Dame-des-Landes, opposition qui a commencé, il y a longtemps, mais l'occupation de la zone qui s'appelle maintenant la ZAD, la zone à défendre, date de 2009. Suite au camp climat qui a eu lieu à Notre-Dame-des-Landes à l'été 2009, où les participants ont décidé d'occuper un certain nombre de terres et de maisons abandonnées, de fermes abandonnées sur la zone de construction de l'aéroport pour s'opposer physiquement à ce projet, mais aussi en vue d'expérimenter de nouvelles formes de vie, de nouvelles formes de culture et de production de fruits et légumes pour une nourriture plus locale qu'autre chose, donc avec une perspective de vivre autrement et de refuser justement cette course au progrès à tout prix, toujours plus vite, toujours plus d'argent, qui était un petit peu au centre du projet de méga métropole nantaise, avec cet aéroport et tout ce qui va autour. Donc voilà, l'occupation a lieu et le gouvernement décide l'évacuation de la ZAD en octobre 2012. Évacuation qui a laissé un certain nombre de marques dans les mémoires et dans les chairs, puisqu'il y a eu une intervention très, très violente de la police entre octobre et novembre 2012, opération César, s'il en fut.
Et ça a été très, très médiatisé d'ailleurs.
Ça a été très médiatisé et très très violent sur place, très violent. Et bon, les témoignages des médecins qui sont intervenus sur place font état de plus d'une centaine de blessés significatifs. Pas simplement un œil au beurre noir ou un petit doigt retourné. Et suite donc à cette opération qui a échoué, évidemment, hein, puisque les zadistes sont toujours là et nombreux, il y a eu un appel à des créations de comités de soutien dans toute la France. Donc sur Blois et le Loir-et-Cher, un certain nombre de personnes ont réagi à cet appel. On était déjà un petit peu sensibilisés par le sujet. Et il y a eu un appel à créer un comité, si mes mémoires sont exactes, le 20 novembre 2012. Donc il y a eu un appel diffusé sur le marché, passé dans la Nouvelle République. Et nous étions, on va dire, une bonne quarantaine à nous retrouver devant la préfecture. Et le comité donc, s'est créé à ce moment-là.
Après l'appel, ça a été immédiat la réaction. Vous avez
oui,
eu
oui,
vraiment, il y a eu une mobilisation
Alors,
importante.
Et partout en France. Hein, oui. Le Loir-et-Cher n'est qu'un exemple parmi
bien
d'autres.
Sûr.
Et il y a aujourd'hui encore près de 200 comités qui existent en France et aussi quelques-uns à l'étranger, en Belgique, en Espagne, notamment en Angleterre aussi, je pense, et en Allemagne. Et donc, ce comité s'est réuni. On a fait beaucoup d'actions de sensibilisation, donc d'informations par tract, par affichage. On a organisé aussi quelques soirées dans la foulée. C'était en février 2013. Là, on a fait une première réunion publique qui a réuni plus d'une centaine de personnes avec diffusion d'un film qui montrait la vie sur la ZAD, les différentes composantes de la lutte et ce qui s'y passait. Et puis depuis, le comité alors, a été plus ou moins en sommeil pendant un certain nombre de mois. On a essayé de maintenir le lien par la liste de diffusion et le site internet qui a été créé à ce moment-là, qui existe toujours d'ailleurs, en tapant NDDL41... on tombe sur le site sur Internet. Et la liste de diffusion, à laquelle tout le monde peut s'inscrire, permet de nous maintenir en contact et de maintenir le lien indépendamment des réunions. Je voudrais préciser pourquoi comité, pas collectif, ce qui a été décidé dès le départ, puisque la différence essentielle, c'est qu'un comité, les personnes présentes ne représentent qu'elles-mêmes, quel que soit l'origine de leur engagement par ailleurs, alors qu'un collectif est une addition de personnes et aussi d'associations, partis politiques qui, on s'aperçoit finalement, mettent leur sigle au bas d'un tract et la plupart du temps, ça s'arrête là. Donc la volonté, c'était de pouvoir réunir un certain nombre de personnes et que chacun s'engage selon ses convictions, selon ses disponibilités. Évidemment, comme dans tout rassemblement, les sensibilités ne sont pas forcément toutes les mêmes. Mais nous étions vraiment regroupés, et nous sommes toujours ensemble, pour lutter contre ce projet et pour qu'il n'aboutisse pas. On a maintenu depuis le début cette permanence qui a lieu tous les mardis à partir de 18h au Café Le Liberté qui est avenue Wilson à Blois. Et les réunions qui est annoncées sur notre site, donc c'est public. Et les gens qui sont intéressés, d'ailleurs on a vu au fil des mois et des années, des personnes venir nous voir à cette permanence en disant bah, « vous êtes le comité, moi ça m'intéresse ». Donc toute personne est accueillie et a toute sa place au sein du comité et a toute légitimité pour engager des actions, donner son avis. Et les décisions sont prises avec les personnes présentes, que ce soit physiquement ou en intervenant sur la liste de discussion et de diffusion, si elles sont empêchées d'être là physiquement. Donc nous avons régulièrement diffusé des tracts sur le marché, essentiellement sur les marchés blésois, et quelquefois à la gare, quelquefois à l'école du paysage, je ne sais plus, non, on ne l'a jamais fait, je crois. Donc, pour essayer d'informer la population des différentes étapes, d'ailleurs, à plusieurs reprises, sur les marchés, beaucoup de personnes nous disaient « Ah bon, ça existe encore, mais on n'entend plus parler du projet, on pensait que c'était fini. » Eh bien non, justement, nous, le rôle du comité et des comités, c'était aussi de faire prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe plus et que l'opposition est toujours présente et plus que jamais.
Vous avez des liens avec les autres comités, justement ?
Alors, il y a depuis la première réunion à laquelle moi, personnellement, j'ai participé, a eu lieu en décembre 2012 à Notre-Dame-des-Landes, où il y avait un appel à ce que tous les comités envoient un ou deux représentants pour voir un petit peu géographiquement ce qui se passait et puis pour se connaître aussi. Et au fil des années, il y a eu un certain nombre de réunions intercomités, soit régionaux. Il y en a eu un ou deux, je crois, à Loche, récemment. Soit au niveau de la Bretagne, par exemple, où ils sont plus impliqués que nous, où ils se réunissent régulièrement. Et la dernière réunion intercomité a eu lieu le dimanche après la grande manifestation des bâtons de début octobre.
Sinon, pour le lien entre les comités, vous avez donc ces réunions, ces rassemblements, mais vous avez aussi la possibilité de communiquer, j'imagine,
par Internet, évidemment, oui.
Voilà. Et cette activité est bien, enfin, elle est comment dire, effective, c'est-à-dire que ça, il y a pas de baisse de mobilisation, c'est toujours très vivant. Vous avez la possibilité d'évaluer ça ?
Il y a eu entre, on va dire, fin 2013, début 2014, et la manifestation qui a eu lieu à Nantes, c'était en quelle année ?
Février 2015, non ?
Février 2015.
Il y a eu janvier 2015.
Tu sais plus ?
Il y a eu plusieurs manifs l'année dernière, ouais.
Oui, les différentes manifestations qui ont eu lieu soit à Nantes, soit sur le site de Notre-Dame-des-Landes ont permis aussi de dynamiser un petit peu les comités qui se sont mobilisés pas mal pour participer à ces manifestations. Et donc les liens ont pu être plus mous, on va dire, à certaines périodes où il ne se passait pas grand-chose et réactivés immédiatement dès qu'il y avait soit un recours qui était rejeté, soit une menace d'intervention ou de début des travaux.
Je ne me souviens pas si tu l'as dit dans l'historique, oui. Mais en fait, on va souvent parler de ZAD. Donc, Edith a bien évoqué zone à défendre, mais ça vient de... C'est un jeu de mots, en fait, sur le zone d'aménagement différé qui qualifie la zone qui va servir au projet et qui, donc, petit à petit, a été l'objet d'expulsion et de rachat de terres, quoi. Voilà. Donc, quand on dit ZAD, pour nous, ça fait partie du vocabulaire classique, mais voilà, il faut au moins que les personnes qui nous écoutent partagent ce vocabulaire, ce jargon.
Oui, c'est important, ça a été rebaptisé.
Donc, c'est une zone à défendre et on la défend. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement pourquoi il ne faut pas que cet aéroport soit construit ?
Moi, je veux bien juste repréciser par rapport à l'historique. Il faut savoir qu'effectivement, il y a une décision d'aéroport, mais parallèlement quand même, il y a eu le Grenelle de l'environnement, où il y avait un engagement de ne plus construire d'un aéroport. Donc déjà là... Et puis, il y a la COP21 quand même, où il faut réduire absolument les gaz à effet de serre. Donc, il faut savoir quand même que l'aviation représente environ 6 à 8% des gaz à effet de serre et qu'il faut absolument arriver à réduire alors que c'est plutôt en croissance. Donc, quid d'un aéroport qui ferait plus de transport oui, ça ne peut pas trop le faire.
C'est incohérent, en tout cas.
En sachant que le fait de faire Notre-Dame-des-Landes par rapport au fait d'agrandir Loire-Atlantique, l'aéroport actuel, en fin de compte, est tout à fait envisageable. Donc on peut effectivement, sans parler de... Si on veut juste absolument maintenir et accroître, on peut le faire avec l'aéroport actuel, mais sans prendre des terres agricoles.
Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'en effet, c'est incohérent de vouloir être dans une croissance du trafic aérien. Bon. Et même si on veut être dans cette croissance, en effet, on peut aménager l'aéroport actuel. Donc il y a eu des rapports. C'est un non-sens et sur le fond et sur la décision du lieu. Quoi. Donc ça, c'est déjà un premier point pour lequel on dit qu'il ne faut pas le construire. Ouais. Après, je sais pas si tu veux défendre un peu l'idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur l'autre aéroport, mais je sais pas si c'est apparemment il serait on peut rester sur une seule piste. Enfin, il y a des tas d'arguments qui peuvent aller dans le sens de on peut aménager l'aéroport actuel, ça coûterait moins cher. Et ce serait moins coûteux, alors du coup on arrive sur l'aspect plus environnemental, ce serait moins coûteux en terre agricole.
Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des airs, j'entends vraiment, je te le jure, ça fait longtemps, la vie entière, j'entends des chants, ça j'en suis sûr. Ça vient de où ? Ça vient du haut ou du dessous ? Je sais pas trop, là tout à coup, comme un écho. Ce qu'elle me joue, c'est tellement beau. Oui, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau. Oui, toutes les promesses qu'elles m'ont faites. Qu'est-ce que j'entends ? J'entends des airs, j'entends souvent, ça me rassure. Depuis tout ce temps, je me laisse faire. C'est tellement franc, c'est tellement pur. Et tout en cœur, elles me font croire. Toutes les couleurs, toutes les histoires. Si tu savais, j'entends des mots, c'est tellement vrai. C'est tellement beau, oui, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau, oui, toutes les promesses qu'elles m'ont faites. C'est tellement beau, toutes ces sirènes dans ma tête. C'est tellement beau, non, je ne veux pas qu'elle s'arrête. Écoute un peu, tu n'entends pas, ferme les yeux et tu verras, c'est merveilleux, toutes ces voix. Si tu le veux, tu entendras.
ce serait intéressant, effectivement, de développer cet aspect environnemental. Et c'est ça qui est mis en avant dans la défense de cette zone.
Entre autres, ça fait partie d'un des points, parce que c'est une zone humide exceptionnelle, donc aussi bien au niveau français que même, voire européen.
Exceptionnel, ça
veut dire quoi ? C'est qu'il y a...
Une des dernières.
Il y a ce qu'on appelle 10 habitats protégés au niveau européen, plus d'une centaine d'espèces protégées, et on en a même découvert 5 qui n'avaient pas été répertoriées aujourd'hui en France. Donc exceptionnel. C'est aussi exceptionnel parce que c'est une tête de bassin versant au niveau du captage d'eau. Donc c'est un lieu assez unique. Peut-être qu'il a même été favorisé par le fait que, comme il y avait ce projet, ben finalement, il n'y avait pas d'intensification agricole. Toutes les haies sont restées. Et du coup, ça a vraiment facilité le fait que, ben, aujourd'hui, c'est exceptionnel par rapport à une intensification qui s'est faite aux alentours.
Ça représente combien de superficie ?
200 hectares ?
2000.
Enfin, 2000 hectares, pardon.
Le projet lui-même d'aéroport, c'est à peu près 700 hectares. Après, il y a tout ce qui est infrastructure, les routes, etc. Le LGV, enfin bon, et là, on monte à 2000 hectares mais qui sont dispersés un peu autrement, quoi. Plus le fait que si on construit un aéroport là, ben, les gens vont vouloir y habiter pour se rapprocher de leur travail, tout simplement. Donc, on va augmenter la pression foncière sur l'habitat, etc., etc. Voilà. Au lieu de densifier là où ça devrait être densifié, c'est-à-dire où il y a effectivement autour de Nantes plus près, quoi.
Et dans cette superficie, les terres agricoles, elles représentent une quantité importante, parce que j'ai cru comprendre, là aussi vous allez me dire si l'information est bonne, que depuis que les habitants ont eu l'information de ce projet, il y a certains agriculteurs qui ont commencé à vendre dans les années 70 leurs parcelles de terre. Qu'en est-il aujourd'hui ?
C'est pas parce qu'ils ont vendu qu'elles n'étaient pas exploitées.
Tout à fait.
Donc aujourd'hui, on est bien sur une exploitation. Le projet, en fin de compte, sur le site, il y a environ 50 exploitations. Et le projet rendrait non viable une quinzaine d'exploitations. Donc quand on parle même d'emploi, ça veut dire la suppression de 200 emplois qui seraient supprimés. 200 emplois durables. Donc le bilan sur l'emploi, il est réellement négatif parce que les emplois qui sont supprimés en agriculture ne sont jamais, forcément ils sont liés à la production de la terre, ne sont jamais recréés ailleurs. Il n'y a pas de compensation possible sur l'emploi. Donc on est vraiment sur une diminution de l'emploi durable. Une augmentation très ponctuelle de l'emploi au moment de la construction. Encore que si on améliore l'autre aéroport, il y aura aussi une augmentation ponctuelle de l'emploi. Mais sur l'emploi durable, on est vraiment sur un effet négatif.
Je sens que Céline, depuis tout à l'heure, tu vas dire quelque chose.
Tout va bien pour l'instant. J'attends mon tour.
Mais tu peux prendre la parole. Hein. Tu sais, ici, il faut la prendre, la parole. Il ne faut pas attendre qu'on te la donne.
Non, ce que je voulais juste te dire par rapport à la ZAD, c'est qu'aussi, c'est un bocage. Hein. C'est magnifique pour les gens qui sont allés et pour ceux qui ont envie d'y aller. Il faut y aller parce que c'est vraiment très joli, parce que ça fait des dizaines d'années que les haies, les bocages n'ont pas été coupés, puisque c'est complètement... la nature a pris le dessus. Donc, à l'intérieur des bocages, bon, il y a les prairies qui sont où les agriculteurs ont exploité avec leurs vaches et leurs troupeaux. Mais il y a des arbres magnifiques, des haies avec une biodiversité exceptionnelle, vraiment. Et donc, c'est bien pour ça qu'il y a tout autant de flore et de faune complètement incroyables. Donc, à protéger, forcément.
C'est vrai que c'est un paysage exceptionnel. Moi, je dis souvent aux gens, allez passer un week-end là-bas, et je crois qu'après, on ne peut pas être pour le projet, mais bon. C'est vraiment déjà... Enfin, on le sent, quoi. Il y a quelque chose de... Et puis, il n'y a pas des fils électriques dans tous les sens non plus.
Les zadistes s'organisent donc en autogestion, tu l'as évoqué tout à l'heure, Edith. Ça veut dire quoi ?
Moi, je parlerais de communautés, de lieux de vie, de communautés qui sont installées, comme éparpillées sur la zone, qui sont plutôt des habitations faites avec de la récupération, avec des matériaux bois, mais aussi argile, paille.
Oui, de la terre paille, en fait. Il y a énormément de maisons faites en terre paille avec des récupérations de verre. En fait, du coup, ils font des vitraux. Enfin, il y a des maisons avec des vitraux faits de culs de bouteilles magnifiques et d'assiettes. C'est assez joli.
Tu as participé, hein, Céline?
Oui, oui, j'ai participé à un petit bout de mes entrepailles.
Alors, il y a aussi des habitants agriculteurs aussi.
Voilà, oui, les agriculteurs, puis les habitants.
Il y a encore, si je ne me trompe pas, 4 familles d'agriculteurs qui ont refusé de vendre leurs terres. Donc, ils continuent à exploiter leur domaine. Et il y a un certain nombre de terres qui ont été achetées par Vinci pour la construction du projet. Donc, les agriculteurs ont cédé, mais qui sont encore exploités, qui sont donc loués à des agriculteurs. Et les zadistes qui ont construit leurs habitations et qui cultivent un certain nombre de terres qui étaient laissées plus ou moins à l'abandon, avec dans leur projet la volonté de cultiver sur place pour se nourrir eux-mêmes d'abord et de pouvoir avoir une production locale, ce qui est, à mon avis, très important dans leurs projets et dans nos projets aussi de vie, la volonté de pouvoir ne pas utiliser les produits fabriqués à des millions de kilomètres, mais justement, toutes ces productions locales et sur les terres de la ZAD, les légumes poussent, on va dire, presque tout seuls. J'ai dit presque.
vu la terre, parfois, c'est compliqué quand même. Hein. C'est plutôt une terre d'élevage. Non, parfois, c'est très, très rempli d'eau quand même. Ouais.
Oui, parfois, oui.
Vous y allez, enfin, personnellement, vous y allez régulièrement, vous faites un peu des allers-retours entre Blois et... Non ?
De temps en temps.
De temps en temps.
Puis on a des parents qui sont un peu là-bas.
D'accord. Ouais. En quoi ce projet...
Je peux encore dire une chose par rapport à la vie sur la ZAD. Je pense qu'il y a un élément aussi important, c'est le mode de décision qui est utilisé par les gens en communauté. Je pense que peut-être, Céline, tu peux en parler, toi.
Non, alors tu vas en parler. Par contre, moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, il y a à peu près 60 lieux de vie sur la ZAD. Donc, ça fait à peu près 200 personnes qui vivent à tenir sur la ZAD même. Donc, c'est énorme. Hein. Il y a des enfants, il y a toutes sortes de gens, des gens totalement différents. Et par rapport à ce que disait Edith, par rapport à la nourriture qui est produite, en fait, ils produisent pour eux, parce que, en fait, c'est prix libre. Il n'y a pas d'argent sur la ZAD. Donc, on
achète. Il n'y a pas de monnaie locale.
Il n'y a pas de monnaie non plus. Donc, en fait, ce qu'on peut donner, on donne. Si on ne peut pas donner, on prend quand même. Si on a faim, on peut manger. Donc, il y a une fois par semaine, il y a un endroit qui s'appelle le No Marché, où les gens qui produisent des choses sur la ZAD viennent apporter, que ce soit le pain, les légumes ou autre. Et en fait, il y a des échanges de faits ce jour-là. Mais, par exemple, des fois, il y a des gens qui produisent beaucoup de pommes de terre. Ils le font, enfin, ils en produisent beaucoup pour pouvoir en donner dans d'autres lieux de lutte. Parce que c'est aussi ça, la ZAD. C'est, en fait, ils autoproduisent leur nourriture et le reste, mais aussi, ils donnent aussi pour les luttes ailleurs. Donc, par exemple, là, à Calais, il y a eu pas mal de pommes de terre qui ont été amenées quand ils peuvent faire des choses, ou à Bure, ou ailleurs. Voilà, je te laisse finir.
Ok, là, je parlais du mode de décision, c'est-à-dire que les décisions sont prises entre les différentes communautés sur un mode, non pas du vote, mais du consensus. C'est-à-dire qu'ils discutent sur des choses qui les concernent tous. Ils prennent des décisions ensemble. Alors, ils expliquaient, parce qu'on a fait venir, dans une de nos actions, on a fait venir des zadistes qui se proposaient de communiquer sur leur vie, etc. Donc, on a fait une soirée ici à Blois. Et donc, ils ont expliqué leur mode de fonctionnement. Et donc, ils expliquaient que c'était assez long. C'est-à-dire qu'à un moment, ils abordent une question... sur la vie, sur la ZAD, et puis sur l'aménagement éventuellement de la ZAD. Et donc, ils repartent, chacun donne son avis. Parfois, c'est un peu, c'est très contradictoire, un peu difficile. Et puis, ils repartent et après, ils reviennent. Enfin, les choses s'aménagent petit à petit. Et petit à petit, ils voient que les décisions se prennent et ils avancent, quoi. Donc, c'est très différent d'une notion de vote qu'on connaît, nous, dans nos fonctionnements, et qui font qu'il y a toujours une partie des gens qui sont lésée, pas satisfait, puisque la minorité, voilà. Mais une minorité qui, quand même, qui se retrouve pas dans la décision finale, alors que là, il fonctionne sur ce consensus. Sachant que sur la ZAD, on voit des gens très, très différents, avec des options de vie parfois différentes, et puis des options par rapport à la lutte, qui ne voient pas les choses de la même façon, mais voilà, ils tiennent à ce que chacun puisse retrouver, voilà, fonctionner ensemble. En tout cas.
Et justement, sur place, il y a des endroits, des espaces de parole.
Voilà. Oui, alors ce n'est pas des AG, hein. Ouais. Il n'y a pas d'AG à la ZAD, mais c'est des réunions. Ouais, ouais. Il y a des réunions toutes les semaines, hein. Donc ils se réunissent un peu partout. Il y a des lieux différents. Sur la ZAD, il y a un petit journal qui s'appelle ZAD News, qui est distribué sur la ZAD, même pas ailleurs, hein, qui est fait sur la ZAD. Et du coup, ça met au courant les gens qui habitent. Ils n'habitent pas donc 2000 hectares. T'imagines bien qu'il ouais. y a des gens qui ne se côtoient pas tous les jours. Et du coup, ce petit journal ZAD News permet de savoir ce qui se passe sur la ZAD. Et donc, si on n'est pas, on veut s'intéresser à quelque chose qui va se monter, hop, on va à cette réunion. Il y a toutes les réunions de noter. Et voilà.
Et il y avait une radio. Il y a toujours une radio.
Ouais.
Et il faut insister sur le fait que les décisions sont parfois longues à être prises. Mais je pense qu'en cas de danger, je pense qu'elles peuvent se prendre très rapidement. Je voudrais bien, à toute oreille entendante. Voilà.
Le message est passé. En quoi ce projet est hors la loi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment un projet d'une telle ampleur, fait par des politiques propres sur eux, peut être hors la loi ? Expliquez-moi ça.
Alors, il y a une première chose, c'est que quand vous entendez le président de la région, il va dire qu'en fait, il n'y a plus légalement, tous les recours sont épuisés. Puisqu'il y a eu, en fait, le combat est sur plusieurs axes. Hein. Il y a un combat sur la ZAD en occupation. Je crois que c'est hyper important parce que c'est grâce à cette occupation qu'il n'y a pas de projet aujourd'hui. Mais il y a aussi un combat qui est mené plus par une organisation d'agriculteurs, par la CIPA, qui voilà, a plus mobilisé des juristes, etc. Donc il y a des gens qui font des recours voilà, contre ce projet. Et donc, il y a encore des recours en cours. Et notamment, il y en a un qui fait parler de lui aujourd'hui, c'est dans l'actualité de vendredi, qui apparemment, en appel, apparemment, il se pourrait qu'il y ait un accord, que ce recours soit accepté.
Alors c'est un recours, je vais préciser. En fin de compte, en 2013, il y a eu 4 arrêtés loi sur l'eau, suite à l'enquête loi sur l'eau. Et c'est ce recours, le recours porte sur les 4 arrêtés. Et en fin de compte, le rapporteur qui aujourd'hui fait au nom de l'État, entre guillemets, demande au tribunal administratif de statuer, a renvoyé clairement, et c'est aussi ce qui était défendu par les juristes, qu'il y avait méconnaissance, entre autres, de la loi du Code de l'environnement, qui dit clairement que l'État peut décider d'exterminer des espèces protégées à une seule condition, c'est que ce soit un projet d'intérêt général et que les solutions alternatives qu'il n'y en ait pas. Or, on sait d'emblée qu'il y a bien une alternative, puisqu'il suffit d'agrandir, en fin de compte, le projet de Loire-Atlantique, l'aéroport de Loire-Atlantique, il suffit, en fin de compte, d'augmenter ou de créer un nouvel aérogare, d'augmenter sa capacité, puisqu'il est limité, effectivement, à environ 4 millions de passagers et qu'on veut atteindre, entre guillemets, 8 millions de passagers. Donc ça, c'est tout à fait possible. Les études l'ont mis en évidence. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de trafic, puisque si on prend un aéroport comme San Diego, quand même, 18 millions de passagers, plus de 400 mouvements par an. Bon, il est arrêté la nuit, hein, entre 23h et 6h du matin, et réalisé sur 270 hectares, une seule piste. Alors que Loire-Atlantique, c'est 320 hectares, c'est une seule piste. Enfin, je veux dire, donc, il n'y a pas de problème de capacité sur Loire-Atlantique, c'est clair, quoi. Donc, ça peut pas. La solution alternative, elle existait. Il suffisait d'agrandir, de faire des modifications, de l'améliorer. Et puis, l'intérêt général, oui, on peut aujourd'hui en douter beaucoup. D'abord, il y a la loi Grenelle, hein, je veux dire, qui disait plus d'aéroport, nouvel aéroport. La COP21 qui dit, mais on peut pas continuer à augmenter comme ça les gaz à effet de serre. C'est pas possible, je veux dire. Il faut respecter les 2 degrés. Et si on ne diminue pas, on ne travaille pas sur ça, on ne pourra pas y arriver, quoi. Donc, bah, l'intérêt des générales, on ne le retrouve pas. Après, bon, y a des éléments plus techniques, mais c'est peut-être vraiment très technique.
Ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, il y a en effet des enfin, apparemment, il est fort possible que cet appel qui a été fait pour revenir sur une décision antérieure de débouter les opposants, enfin, apparemment, puisse aboutir. Et du coup, le projet pourrait être arrêté puisque il y a plus de, enfin, les interdictions sont bien présentes. Alors,
sauf que pas forcément suspensif. Donc, vu le pouvoir en place, vu les entreprises, je veux dire, il faut quand même garder une certaine vigilance, même si, effectivement, le tribunal donnait raison en disant les arrêtés sont illégaux. Et voilà. Donc ça, c'en est un. Et ça, c'est en train d'être défendu cet après-midi au tribunal de Nantes, en appel. Après, il y a l'Europe qui avait renvoyé qu'il y a un recours de l'Europe contre la France parce que toutes les études étaient saucissonnées, qu'il n'y a pas d'études globales et que ça, c'est une obligation pour effectivement mesurer tous les impacts, voir s'il y a des alternatives possibles, etc. Et que tout ça, ça n'avait pas été fait. En présentant des études une par une, des livres non noués entre elles, je veux dire, c'était assez clair. Donc là, l'État a proposé que ce soit repris dans ce qu'on appelle le schéma de cohérence territoriale. Mais le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire ne pourra être approuvé que début 2017. Donc on comprend mal pourquoi l'État dit qu'il veut démarrer les travaux maintenant, alors que l'étude, entre guillemets, qui serait générale, est donc approuvée, mais non approuvée actuellement, je veux dire, c'est clair. Voilà, il n'y a aucun élément, quoi. Donc oui, illégal à plein de niveaux, quoi.
Illégal aussi, parce que aujourd'hui, les politiques disent qu'il y a eu une consultation qui a été faite et qui a donné un résultat favorable à l'aéroport. Or, la consultation, on parle bien de l'aéroport du Grand Ouest, et la consultation a été limitée à la Loire-Atlantique, qui est une partie du Grand Ouest. Il est fort probable que si on avait interrogé les gens un peu plus à l'ouest, les Bretons, non, on l'aurait emporté, mais bon, voilà. Donc, on peut questionner sur quelle est la représentativité de ce résultat. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find you, check this out. Now, I'm gonna find you with this air vocal. For those bass both overseas and local. Now first my mixture, this hits you, grips you. Get used to my voice, it's a permanent fixture. With you, get a picture, sort of like a profile from showing that I'm not docile, son, but far from it. I rhyme intelligently, cause I'm an MC with relevance and see. Now what you're hearing is not a rehearsal, it's urban specie, it's not a commercial pop group. When I get up on a hip-hop loop, now even if I say so myself, you get a hard scoop. Blame my trumpet, I'm not egotistic, so in a category, I'm not a statistic. I'm far from a rapper with an ego problem. The music industry already has too many of them. No, I'm not a king of prince or any form of royalty. I'm not a sellout with no sense of loyalty. And to my fellow species, there is no divinity. Put my faith in Jah, which is why I'm not an atheist. And I stand for peace, but I still release. Blows when foes wanna push me to the limit. So hold back the track and wait for a minute. I wanna let you know ahead to separate the men from the boys. Okay, bring back the noise. I like to penetrate through your eardrum, letting you know who I am and where I come from. I go deep into your subconscious, and most MCs are obnoxious. So just watch this space, stay tuned, don't touch that dial. I'll be back in a while to play a game called hide and seek. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find you with the words I speak. Let's play a game called hide and seek. You hard to find to check it. The crew's coming through real stable and able. I'm proud and talking loud just like my label. I got it installed back, brand new format. I took time to design so you can be sure that whenever I come, I'll be coming down different looking.
looking back on my youth, a lot of it was misspent. But I made a change for the better. And now I'm on the right track, everything's clearer. See, once upon a time, my mind was European eyes. Open up my eyes, I looked around and realized something wasn't right. 90% of the world's population isn't white. But still, despite the fact that they're the minority, economically they control the majority. You go to school to be a fool where you learn about another man's history. Meanwhile, your own is a mystery. So a worldview becomes a blurred view. Now I wonder, has it ever occurred to you? You're being programmed and Europeanized, so you can only see through European eyes. And then a Western perspective is selected, and anything else is rejected. But this can no longer be accepted. The system's it's gotta be corrected. And I'm here to break the mold with soul power. Time's running out, now I'm in the last hour. No time for snoozing, mics I'm bruising. Obscure samples we're sometimes using. Quite essential and quintessential. Experimental, hard but gentle. Equipped with a lick to rip shit, and it has urban species all over it. And it's signed by me, the capital of my intimacy. From the urban species crew coming through with poetry. And that's all for me.
Ça donne le tournis quand même, quand on n'est pas à l'intérieur de ni la lutte d'un côté ou de l'autre, on comprend mal avec toutes les, finalement toutes les études, toutes les preuves, je dirais, qui ont été apportées sur l'aberration de ce projet, que continue cette lutte contre tout bon sens.
Là, on va sortir des faits, on va rentrer dans
voilà. Edith.
Bon, pas forcément des faits, mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. Je pense, et je suis persuadée qu'il y a de très très gros enjeux financiers à la clé, puisque Vinci, c'est quand même pas n'importe quoi.
C'est qui Vinci ?
Ah. Bah, c'est une grosse multinationale qui touche un peu à tout et dont le principal intérêt est de faire du profit. Donc à partir de ça, on peut se poser plein de questions. Il y a eu pas mal, bon, sans rentrer dans le détail, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites sur cette multinationale. Il y a eu des tracts qui ont été plus ou moins ciblés sur cette entreprise. Et bon, c'est pas rien que le partenariat public-privé qui a été signé avec Vinci, ils essaient d'aller jusqu'au bout. Et puis je pense qu'il y a aussi une volonté politique d'un certain nombre de gouvernements, que ce soit français ou ailleurs, comment dire, un peu de course, non pas l'échalote, mais aux grandiloquents et aux projets plus ou moins méga pharaoniques qui sont remis en cause aujourd'hui. Bon, c'est vrai que quand Roissy, l'aéroport de Roissy a été construit, personne ne s'est préoccupé du nombre de terres agricoles qui ont été supprimées, parce que tout le monde avait dans la tête que oui, le progrès nécessitait la construction d'un nouvel aéroport, que oui, le trafic aérien était indispensable et qu'il fallait absolument cet aéroport. Aujourd'hui, un certain nombre de gens, et notamment sur la ZAD, mais ailleurs dans les comités aussi, cette question de progrès à tout prix et de gigantisme est remise en cause au profit justement d'une agriculture locale, préservée, d'un environnement plus humain, on va dire.
Plus fragile, enfin, puis qui a pris une valeur importante aujourd'hui, enfin, dont on comprend la valeur, humide.
C'est bien pour ça que, bon, il y a eu, enfin, c'est moins spectaculaire, mais l'opposition et la lutte qui se fait encore aujourd'hui contre la ligne de TGV entre Lyon et Turin est toujours d'actualité, parce que justement, c'est aussi cette volonté de ne pas sacrifier de zones naturelles et de ressources humaines au profit d'un bétonnage qui apparaît comme non seulement inutile, mais nuisible à l'ensemble de la société.
Mais c'est ce qui s'est passé à Agen avec la ligne à grande vitesse, mais qui a malheureusement périclité. Voilà. Les ZADIS sont partis, c'est ce qui se passe un peu partout, en fait.
Oui, oui.
C'est ce qui s'est passé à Sivens avec le... Enfin, voilà. Il y en a plein, en fait, d'endroits comme ça en France qui, maintenant, devraient être protégés, et on sait très bien que ça mène pas... Et pourtant...
Alors, quand on parle d'intérêt général, enfin, c'est une réflexion que je me fais là, c'est... Je pense que ce qui se passe à un petit bout de la France nous concerne tous, quoi. Enfin, on le voit dans la façon de... Je sais que c'était ça dernièrement, dont on traite les terres, etc. On peut dire, bah, c'est le gars à côté, mais non, ça nous concerne aussi, quoi. Et donc, quand on va implanter là, bah, en effet, on est en train de tuer un petit bout de nature, quoi.
Bah, c'est pas pour rien qu'il y avait 40 000 personnes qui sont venues à la dernière manifestation sur Notre-Dame-des-Landes pour le champ des bâtons, là. C'était exceptionnel.
C'est ça, quoi. Je pense qu'il faut, en parlant de Nantes, il y a aussi ce qui est mis en avant par les gens qui sont favorables à ce transfert, nouvelle construction, ce transfert, c'est le bruit. Des avions sur l'aéroport actuel qui est en fait fortement démenti. Moi, j'ai même entendu une interview du président, du vice-président, je crois, de Nantes Métropole, qui dit qu'en fait, les prévisions en termes d'augmentation de trafic et d'augmentation du bruit, on est à l'époque, ce qui a été fait pour justifier le nouvel aéroport, ne sont plus du tout d'actualité, quoi. Les avions font moins de bruit et en général, le trafic ne devrait pas forcément augmenter parce qu'on met de plus en plus de gens dans un avion, etc. Enfin, voilà, donc on est en dessous. Aujourd'hui, en fait, tout ce qui a été mis en route, parce qu'on voit que c'est quand même ancien, enfin, tu démarrais avec cet historique, tout ce qui était à l'origine, le contexte à l'origine de ce projet, aujourd'hui, il est complètement différent. Et ce qui fait qu'on se rend compte que c'est une aberration, quoi.
À titre d'exemple, le plan de nuisance sonore, donc c'est ce qui établit qu'il y a une nuisance supérieure à 55 décibels liée aux avions. Sur l'aéroport actuel, c'est 4500 personnes de touchées. Sur Blagnac, Toulouse, c'est 50 000 personnes de touchées. Et l'État, le gouvernement a dit que Toulouse, ça ne valait absolument pas le coup de faire un nouvel aéroport et de le déménager. C'est-à-dire que pour 50 000, on considère que ça ne vaut pas le coup. Donc, on a du mal à comprendre pour 4500. D'autant qu'en plus, sur Loire-Atlantique, bon, ils n'ont pas encore mis en place les nouvelles techniques qui permettent de diminuer vraiment les techniques d'atterrissage un peu plus sophistiquées, qui permettent réellement de diminuer encore ce niveau sonore, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan d'où on en est aujourd'hui sur place, pour vous, pour le comité
Alors, suite aux différentes déclarations de Manuel Valls et du préfet de la région du Grand Ouest, qui expliquait que les travaux démarraient cet automne. Il y a eu un certain nombre de réunions des comités et des habitants de la ZAD pour envisager d'éventuelles expulsions qui seraient préliminaires à tout début de travaux. Donc par rapport à ça, il y a eu un appel à rester mobilisé. Et nous avons répondu à cet appel, comme tous les comités. Et donc, voilà, parce que, évidemment, les habitants de la ZAD ne vont pas laisser faire, ni les travaux, ni les expulsions. Et nous sommes appelés et nous appelons à réagir dans les 24 heures, avec un rendez-vous, notamment sur Blois, devant la préfecture le soir même à 18 heures, pour envisager ce qui a été décidé il y a longtemps. S'ils expulsent, nous occuperons les lieux de pouvoir.
À partir de 14 heures, le jour même.
18 heures, on se dit que ça va rassembler.
C'est vrai qu'on est revenu en se disant, dès 14 heures, on peut commencer à se mobiliser.
Je corrige.
Le jour même, s'il y a une expulsion, s'il y a le moindre mouvement, ou expulsion ou début de travaux.
Ou début des travaux. Parce qu'il n'est pas non plus inenvisageable de penser qu'ils peuvent démarrer les travaux dans un endroit où il n'y a pas d'habitation. Donc, sur la ZAD, les gens restent vigilants et essaient d'anticiper tout mouvement de camions ou d'engins de chantier qui pourraient se déplacer sur un endroit.
Il faut dire que le fait de démarrer les travaux permet de prendre acte sur un certain nombre de contrats, donc valide des étapes de contrat. Et ça nous fait rentrer un peu plus dedans. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment bloquer de contrat avec Vinci. Tout le système de subvention, de soutien, enfin, à chaque fois, vous avez des étapes. Et le fait de démarrer les travaux est une étape. Et donc c'est important de ne pas avoir une seule pelle qui démarre, quoi, pour ne pas que cette étape soit franchie, parce que du coup, c'est plus facile de revenir derrière. Il y aura quand même sans doute des pénalités si le contrat n'est pas honoré. Même, on imagine qu'ils savent se débrouiller, mais bon. Voilà.
Et sur place, la mobilisation est toujours aussi forte. Il y a toujours autant de monde.
Sur la ZAD.
Sur la ZAD.
Oui. Encore plus. Je crois que ça a mobilisé. Dès qu'il y a une menace d'expulsion au début de travaux, je pense que ça remobilise. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, même pour nous. En 2015, il y a eu une période où voilà, on avait l'impression que c'était un peu gagné, on ne savait pas trop, et donc on était là, mais on n'a pas fait d'action particulière. Donc là, dès qu'il y a une menace un peu plus précise, et on entend régulièrement dans la presse quand même, déclaration de l'un, de l'autre, parfois ce n'est pas toujours dans le même sens, mais on sent que ça devient un peu chaud. Et donc, du coup, il y a une mobilisation quand même assez forte, et puis des gens qui partent là-bas, oui, beaucoup plus. Je crois qu'il faut aussi dire que, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, on souhaite mobiliser plus de gens, et que c'est un comité, c'est pas au sens comité fermé, au contraire, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... En mouvant, c'est qu'il est très ouvert. Donc, le Liberty, c'est pas grand, mais si on est beaucoup, on peut s'arranger. Et donc, je crois que la façon la plus simple de si des gens nous entendent et sont intéressés, ne fût-ce que pour venir discuter avec nous, s'enrichir un peu de leurs réflexions et des nôtres, je pense que c'est bien qu'ils viennent le mardi à 18h au Liberty. Il y a toujours quelqu'un et on n'est pas toujours tous là, voilà, parce qu'on peut pas tout le temps. Mais on attend qu'il y ait des gens qui puissent venir, qu'on sente. On est d'abord parce que ça nous permet d'être plus fort, d'avoir du soutien, plus d'idées, et puis en termes d'action, on peut faire plus de choses. Quoi.
Voilà. Et donc vous êtes visible aussi sur Internet, Notre-Dame-des-Landes 41. Vous êtes présent parfois pour des actions, justement, tout à l'heure, tu disais, Edith, de tractage sur les marchés. C'est assez régulier ou c'est vraiment des actions quand il y a un événement particulier?
Ça dépend des périodes. Ça peut être plusieurs fois sur le marché en 4 ou 5 semaines. Ça peut être une fois en 2015 où on a dû diffuser 2 ou 3 fois sur le marché parce que l'actualité n'avançait pas. Donc notre souci, c'était de faire de l'information. Mais en même temps, ça s'est resté un petit peu au point mort. Mais quand on en ressent la nécessité... On essaye de récupérer un tract donnant des nouvelles qui a été mis sur Internet et qui nous semble intéressant, soit on écrit nos propres informations et on essaie de le diffuser dans les endroits où on peut rencontrer du monde. Ça nous a permis d'ailleurs à plusieurs reprises de contacter des gens qui maintenant viennent au comité de faire ces diffusions. Depuis quelques diffusions, on a la chance d'être accompagné par quelques musiciens qu'on remercie chaleureusement de participer à nos actions et qui permettent de rameuter un peu le monde autour de nous et qui donnent un air un peu festif sur un sujet assez grave, disons.
Et en 2015, on a fait un concert pour mobiliser et puis en même temps récolter un peu de sous qu'on a envoyé à la ZAD et qui aussi nous permettent de faire des affiches, d'avoir ce soutien-là. Je pense aussi que les personnes, c'est bien de... Enfin, moi, je pense que c'est important de venir parce que c'est bien de participer à quelque chose. Il n'y a pas d'obligation d'être là de façon permanente ni rien, mais il y a aussi possibilité de consulter beaucoup de sites aussi. Il y a le site de la CIPA, il y a le site de la ZAD. Et puis il y a beaucoup de films, on parlait de la vie sur la ZAD, il y a beaucoup de petits courts-métrages qui permettent vraiment de se rendre compte de ce qui se passe là-bas. Mais c'est bien aussi localement de se rencontrer.
Vous voulez rajouter quelque chose, Martine, Edith, Isabelle?
Non, tout va bien.
Est-ce que j'avais envie de vous demander quand même, est-ce que vous êtes satisfait, entre guillemets, du traitement de cette lutte dans les médias? Est-ce que c'est bien relayé?
Ça a été très long et je crois que la question de fond n'est pas toujours abordée quand même, que ce soit par rapport à l'environnement et puis d'autres formes d'expression qui sont sur la ZAD. Et ça, c'est vraiment intéressant que ça se fasse. ça fonctionne autrement. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas laisser s'expérimenter d'autres façons de vivre.
Mais ça fait peur. Donc du coup, on n'en parle pas.
Ça fait peur.
Tu trouves qu'on n'en parle pas assez ?
Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. En fait, on effleure toutes les choses, mais on ne va pas au fond du problème. Il n'y a aucun... Il y a peut-être des petits films de fées et tout, mais ce n'est pas pour le grand public.
Ah non, ce n'est pas le grand public.
Au niveau de l'info, de la masse d'infos, non, je suis désolée, il n'y a rien de fait.
Enfin, il y a des films qui ont été faits. Il y a un film qui a été notamment passé au Lobis, là, qui est Le Dernier Continent, c'était ça ? Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut, quand on parle de la ZAD, c'est pas la jungle de la ZAD, mais un peu quand même. Donc,
en général, dans les médias, les zadistes est un terme très péjoratif. Et ils sont souvent présentés comme des huluberlus, chevelus, violents, drogués, alcoolisés.
Et sales.
Ouais. Ah bah ouais. voleurs de pommes, voire de poules. Et parce que, en général, ils sont végétariens, mais bon. Donc, c'est pas une image très positive de ce qu'on peut rencontrer quand on y va et qu'on les rencontre et qu'on discute. Il s'agit pas non plus d'idéaliser cette zone et les habitants qui sont là. Hein. C'est une société comme il y en a partout ailleurs. Donc, avec des gens très différents, avec des envies et des désirs complètement, voire opposés. Mais qui sont là et qui, chacun à leur manière, expriment une volonté de vivre différemment. Et je crois que c'est ça qui est important aujourd'hui. Ce que je voulais rajouter, c'est que dans cette opposition à cet aéroport, il a été bien spécifié partout que c'est ni à Notre-Dame-des-Landes ni ailleurs. Donc il ne s'agit pas de rejeter le projet pour qu'il soit construit ailleurs. Nous, on n'en veut pas, mais tant pis pour les autres. Mais c'est vraiment une perspective d'une autre façon de vivre qui s'exprime là. Et je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui.
C'est une façon de vivre qui va vers l'autonomie. Je crois que ça fait vraiment peur. Des fois, on préférait avoir des assistés, parce que là, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, que des gens qui sont autonomes et qui ne vous demandent plus rien, qui se font à manger, construisent leur maison, enfin, je veux dire, sans rien demander à la société, entre guillemets. Et du coup, c'est plus des assistés. Effectivement, ça fait peur.
Moi, je voulais juste te dire qu'en plus, la ZAD de Notre-Dame, c'est un peu le phare de ce qui se passe en France. Et si la ZAD tombe, les autres projets derrière, ça va être un petit peu plus difficile. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de personnes qui partent. Dès qu'il y a une manifestation à la ZAD, tout le monde monte là-bas. Parce que Notre-Dame, c'est ce qui éclaire le reste. Et c'est ce qui donne aussi un petit peu d'espérance, c'est de se dire, mais on peut vivre autrement, on peut peut-être faire autrement. Et des micro-ZAD un peu partout en France peuvent voir le jour. Enfin, moi, j'en suis convaincue.
C'est le phare de l'Ouest.
Ceci dit, il se passe des choses même à Blois. Hein. Il y a des projets alternatifs,
oui, complètement.
Beaucoup qui se développent. Ouais. Je pense qu'il y a cette notion d'acteur qu'on sent sur la ZAD avec les gens qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'ils construisent leur univers. Et ça, c'est vraiment important. Ils ont une action sur leur... Ils ne sont pas hors sol, quoi. Ils sont vraiment posés dessus et il faut qu'ils en sortent quelque chose. Mmh. Et je pense que ça donne une autre dimension à ce qu'on fait.
Merci beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça sera pareil pour nos auditrices et auditeurs. Merci, je vous souhaite bon courage pour tous les projets. Tenez-nous au courant de vos futurs projets, de vos futures actions. Et je vous dis à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez.
Et merci à Studios.
Merci.
Juste un dernier mot. Nos projets sont aussi les vôtres.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante, au passage des cœurs de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons. Puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Leur cérébral est fleur de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer. Sur les pelouses interdites, hors des institutions sacrées, sacré nom de Dieu, c'est meilleur, essayez pour voir et puis dites. Divorcez-moi, châtrez-moi le cœur, et puis le reste aussi, quel bonheur.
et mangez-les avec des frites, vous n'aurez pas la fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes tous les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, être différent c'est un crime. Être noir ou jaune ou pété, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça mange pour tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur, dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts, et je vous emmerde. Vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur, dans ses bras les fleurs de cœur, ma fleur, fleur de cœur, ma fleur.